Si je passe la parole à Frankfurter.
Kvodhora, chers amis, je ne prends la parole que pendant quelques minutes pour vous exprimer le plaisir que nous avons de nous retrouver. Et si cette année nous sommes à la veille de Hanouka, c'est parce que le calendrier avec les journées de travail nous permettent de nous retrouver Erev Hanouka, alors que beaucoup qui ne sont pas encore partis en vacances partiraient demain ou dimanche. Nous allons quand même allumer, sans réciter les broches, le chandelier si présent en entier, à titre de symbole, pour demander à ce que, comme le lever du jour est précédé par ce sentiment d'une lumière qui approche et qui arrive. Ainsi, Hanouka, qui commence demain soir, nous attirons vers nous cette lumière venue de plus haut pour que chacun d'entre vous et les membres de nos familles soient bénis par cette lumière venant, celle de Hanouka qui annonce tant de salut, tant de bénédictions pour la santé et pour ce que la Gemara appelle Bane Chaye Umzone, c'est-à-dire une vie de bonne santé, une famille qui s'agrandit par les enfants et par les mariages, ainsi que Mezone, c'est-à-dire une parnassa, la réussite dans l'activité professionnelle. Que ces vœux soient complétés par la providence divine, de sorte à ce que vous soyez satisfaits, de sorte à ce que ceux qui sont rentrés avec désespoir partent en ayant coupé ce mot en deux, avec désespoir qui soit une espérance qui aboutira à une véritable réalisation. La première des choses que l'on peut trouver, c'est de savoir que nous sommes entre amis et que par conséquent, lorsque nous sommes dans la ligne de cette piété qui a caractérisé le Hashmonaïm, ces héros qui ont obtenu pour tout Israël le miracle de Hanouka, eh bien, nous prétendons vouloir agir avec autant de piété que eux, et si nous ne réussissons pas encore, nous avons la vie devant nous pour y arriver. C'est-à-dire, nous visons, et c'est là la pratique de Hanouka, nous visons à faire le mieux possible de ce qui nous est imparti, de sorte à ce que tout Israël bénéficie de l'effort de chacun. Et le sujet que nous avons demandé à Rav Heyman de débattre, à savoir l'orthodoxie mène-t-elle à l'intolérance, est directement lié avec ce mouvement d'une révolte des Hashmonaïm à l'égard d'une majorité d'un peuple qui s'était laissé aller à des idées fallacieuses en se berçant dans de faux nationalismes et dans une assimilation qui allait perdre tout Israël. C'est-à-dire que dans l'acte où on refuse un certain nombre de mensonges et de maquillages, il y a l'affirmation de soi. Mais cette intolérance du mal n'est pas forcément l'intolérance à l'égard de l'autre. Je ne traiterai pas le sujet, mais cela mérite que l'on en débatte entre nous, de manière à ce que, comme disait Ramban Nachmanide à son fils, quand tu te lèves d'une séance d'études, interroge-toi. Que viens-tu d'apprendre qui te permettra d'être dorénavant meilleur que ce que tu as été auparavant ? Eh bien, c'est ainsi que nous voulons, justement parce que nous nous retrouvons dans l'exemple des Hashmonaïm, parce que nous pensons être des orthodoxes et des orthopraxes, c'est-à-dire des gens qui agissons bien et qui pensons bien, nous voulons qu'à travers l'amour pour Dieu et l'amour pour Israël, nous devenions meilleurs en sauvant le malade et en chassant la maladie, en critiquant et en enlevant le péché et en sauvant le pécheur. C'est là un premier pas que nous espérons avoir fait ensemble ce soir, et un second pas, c'est de rapprocher ceux qui sont parfois isolés. Isolés dans le célibat ou isolés dans la communauté. Tous ces rapprochements sont souhaités ce soir. Quand même un Dvar Torah, Nous allons demain soir réciter et pendant 8 soirs avant d'allumer les lumières de Hanouka. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu l'hadlik ner Hanouka ou ner shel Hanouka. Et nous ajoutons une deuxième bénédiction. She'asa nisim l'avotenu bayamim ha'em bazman hazeh. Où nous louons Dieu pour avoir fait bénéficier à nos ancêtres de prodiges, de miracles. Bayamim ha'em, alors dans ces temps-là, bayamim ha'em, et on ajoute bazman hazeh, en ce temps-ci. Nous comprenons dans une première approche que c'est le temps du 25 qui se lève, des jours du calendrier où nous sommes. Mais une seconde approche nous dit, c'est en ce temps-là, c'est-à-dire dans le calendrier, dans le cycle du temps où nous avançons, HaKadosh Baruch Hu, créateur du monde, a créé et a donné à Israël des temps de rendez-vous. Il y a un temps de Pessah qui est un temps de délivrance, un temps de Shavuot qui est un temps du don de la Torah, d'une approche vers la sagesse. Il y a Sukkot qui sont des temps de rendez-vous pour le culte dans la joie, c'est-à-dire un moment où le dialogue de l'âme avec son Créateur est plus facile. Un moment où l'on peut sentir véritablement la main de Dieu qui est tendue vers nous, qui voulons entreprendre cette démarche d'un dépassement de soi vers HaKadosh Baruch Hu. C'est le sens du Moed, le rendez-vous. Il y a d'autres temps qui sont propices à d'autres événements ou à d'autres vertus. Et Hanouka est un temps propice à Sanissim Lavoteinu Bayamimaem Bazeman Hazé. C'est un temps où le miracle, où la lumière est offerte à tous ceux qui veulent sortir de la grisaille, de l'obscurité, de ces interrogations que la civilisation environnante leur pose ou des difficultés inhérentes à la vie matérielle où ils se débattent. Et s'ils sont déjà sortis de tout cela, eh bien, c'est un temps pour progresser encore plus loin et plus haut. C'est là le temps de Hanouka, Shasanissim Lavotin Bayamimaem. Eux ont saisi l'occasion, ils ont ouvert la route et nous, Bazmanazé, en ce temps-là, nous pouvons profiter du même éclairage, de la même aide pour pouvoir sortir à travers notre démarche, à travers notre allumage, notre pirsoumnes, cette diffusion du message. Nous pouvons sortir tout Israël des problèmes où il attend encore une solution d'ordre miraculeuse. Une troisième lecture s'impose à nous lorsque nous rappelons ce que nous disent nos sages. Nos sages nous disent, chaque fois que dans le verset il y a marqué « Hazé »,« Zé », »,« En zé ela gilui shchina »,« Sheneema »,« Zé »,« Eli vanveu ». Lorsque le verset parle du désignable absolu par excellence, sans que ce pronom « Zé » ne soit en référence à un sujet dont le contexte a parlé, il est question de la révélation, de la manifestation divine parmi nous. Lorsque la Torah dit « Zot », elle pense à elle-même, la Torah. HaKadosh Baruch Hu désigne la Torah par « Zot » et désigne la Shekhinah par « Zé ». Le Midrash l'a d'ailleurs appliqué sur le verset mis dans la bouche d'Ésaü lorsqu'il a dit « Imken l'amali zé bechora » Le Midrash nous dit, Ésaü a dit « L'amali à quoi me sert zé ?» La présence divine sur terre, ce qui est inhérent au droit d'aînesse ne m'apporte aucun avantage matériel, je préfère un plat de lentilles plutôt que d'avoir à œuvrer pour réconcilier l'humain avec le divin. Li et Zé sont mis en opposition dans la nature d'Ésaü, qui est un homme croyant en Dieu. Il est le petit-fils d'Avraham Avinu, comme le souligne Rabbi Aaron Kotler. Il a vécu dans la maison d'Avraham Avinu et qui a vu le visage d'Avraham Avinu ne pouvait pas ne pas croire, tout comme celui qui avait vu le visage du Gaon de Vilna devait devenir un homme ma'amin, c'est-à-dire croyant. Et voici que Esav, qui a vécu 13 ans auprès de son grand-père, qui est le ma'amin, le croyant, le père de tous les croyants, comment a-t-il pu devenir ce qu'il était? Eh bien, c'est parce que sa foi, il l'a gardé et refoulé. Il était croyant, mais il n'a pas voulu être pratiquant. Il se contentait d'une intellectualisation et d'une spiritualisation d'abstraction, mais dans le monde de l'activité de l'action, il a concurrencé Nimrod, il a voulu conquérir la part du lion à la force du poignet, jouir de ce monde, l'emporter sur la mission que l'homme peut remplir au nom créateur. Eh bien, c'est ça que Esav dit, l'Amalie, pour ce que lui pense, c'est la présence divine n'est pas escomptable et il ne fera pas d'effort. C'est Esaü, l'anti-Israël. Pour Israël, le fait de ramener Zé, de ramener le désignable, c'est-à-dire la présence divine qui est occultée par le matériel, de faire triompher le spirituel sur la jouissance purement concrète, c'est cela le Gilui Shrina, c'est cet effort, c'est ce combat, cette victoire de tous les instants que Israël doit mener et c'est ce triomphe qui est attendu et qui est entre nos mains. Eh bien, c'est ce que nous disons dans la bénédiction. Lorsque je dis « Bazman Hazé », je le traduirai avec vous comme je dirais « Zman Hameler », le temps du roi. « Zman Hazé », c'est le temps qui appartient à Zé. Zé, c'est la manifestation divine. C'est-à-dire « She'asani simla avotenu bayamim hazé ». Dieu a fait profiter à Israël, à nos ancêtres, de prodiges, de miracles, et nous vivons ce temps qui est propice à la révélation divine parmi nous. C'est ce que nous disons à chaque événement heureux, lorsque nous disons « Shechiyanu vekimanu vegiyanu lazman hazé », c'est-à-dire par la joie, nous pouvons faire surgir la présence divine qui est enfouie en chacun de nous. Et bien que la joie d'un dîner amical, que le moment d'être à la veille de Hanouka, fasse que le Zman Hazé, que le Gilui Shrina soit notre récompense, comme a dit Moshe Rabbeinu, Shetishre Shrina Bemas Yedechem, que la présence divine rayonne et séjourne à travers votre œuvre, que tous ceux qui ont organisé, que tous ceux qui ont mis leur cœur et leur savoir plus leur avoir, ceux qui sont là et ceux qui continueront encore à se retrouver avec nous et qui étudieront et qui développeront leur famille dans le sens de ce désir profond de la Neshama de l'âme juive, soyez bénis au nom d'Akadosh Baruch Hu. Nous levons le verre pour dire le Chaim l'un à l'autre et que par cette amitié, nous puissions effectivement voir la bénédiction globale se réaliser pour nous et tout Israël. Ad biad goel tzedek bimher abiyameinu. Le Chaim, le Chaim.
Le rôle essentiel qu'il joue à Paris et le niveau qu'a atteint la yeshiva qu'il dirige à Épinay, dont le succès retentit sur la communauté parisienne dans sa totalité. Et malgré son emploi du temps, il a bien voulu venir nous parler ce soir. Nous en sommes très reconnaissants. Et sans plus tarder, je vous passe la parole, Kefod Harav.
En vérité, c'est moi qui est heureux ce soir de participer avec vous et d'avoir l'occasion de voir que l'O Alman Israël, que la pérennité du clan Israël est assurée, qu'elle s'assure tous les jours. Ashrechem Israël, ça n'est pas quelque chose de petit. Ce que nous savons, nous avons du mal à l'expliquer aux autres, c'est que le fait que le clan Israël a duré au milieu des nations depuis 2000 ans, qu'il existe depuis plus de 3000 ans, il n'y a pas de secret, si ce n'est que cette pérennité, c'est son avenir. C'est l'avenir du clan Israël qui fait qu'il y a toujours eu un passé. Et cette rida, ce qui est satoum, ce qui est difficile à comprendre pour les autres, pour nous c'est facile. La pérennité du clan Israël, sa durée, sa force et son avenir. Je suis un petit peu embêté parce que n'ayant pas compris pourquoi le comité Rav Frankfurter m'avait demandé de venir. J'ai encore moins compris ce soir, puisqu'en deux minutes, Le Rav a traité du sujet et je ne sais pas si il reste encore beaucoup de choses à dire. Je vais essayer un petit peu d'expliquer ce qu'il a dit. Tout le monde connaît l'histoire de Hanouka. Cette histoire de Hanouka nous montre Masarta Giborim Be'ad Chalashim, Rabim Be'ad Me'atim, Tmeim Be'ad Teorim. Il est des périodes où le petit nombre est obligé de se révolter, est obligé de partir en guerre. Et il est arrivé qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné raison. Cette lutte, c'est quelque chose qui fait peur. De même qu'aujourd'hui, les problèmes politiques qui se posent pour le clan Israël, notamment celui de la théocratie, est un problème qui nous fait peur, mais est un problème qu'on est obligé de traiter. De même, l'histoire de Pinchas, celui qui se lève, qui se permet non seulement de ne pas tolérer l'autre, mais de le frapper, c'est quelque chose que nous devons comprendre, c'est quelque chose, un processus dans lequel nous sommes nous-mêmes engagés. Je voudrais donc juste essayer de montrer d'où est-ce que cela part dans la Torah, où est-ce qu'on en trouve les exemples et quelles sont les limites. Ça commence évidemment par une question. D'un côté, nous voyons que la Torah a érigé en précepte une maxime que tout le monde connaît, « Va'avta le re'acha kamocha »« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » à un point que personne n'avait encore pu jamais atteindre. Il y a une Gemara dans Baba Metzia, dans le Perek Ezeu Necher, la Gemara dit « Tanya » Une braïta nous enseigne Shnaim Aolchim Bamidbar, deux personnes qui marchent dans le désert, ou Biyad Echad Mehem Kiton Shelmaim. Il y en a un qui a une cruche, il a de quoi boire, et l'autre n'a rien. Yishtu Shneem, que les deux boivent, même s'ils sont sûrs de ne plus arriver à destination, Ve'alir Echad Bemot Havero, et que l'un ne puisse pas voir la mort de l'autre. Voilà ce qu'a dit Ben Petora. Voilà ce qu'il a enseigné dans la Braïta. Ad Sheba Rabbi Akiva Velimed. Jusqu'à ce qu'est arrivé Rabbi Akiva Velimed, il nous a enseigné. Le Chay Achicha Imach. Ton frère vivra Imach, mais avec toi. D'abord toi, et ensuite Imach, ton frère. C'est-à-dire qu'il était concevable pour les Chachamim que deux hommes vivent et qu'il n'y ait plus de personne, il n'y ait plus de problème de subsistance personnelle, qu'il n'y ait qu'un problème de klal. C'est ce que nous voyons dans le verset « Banim atem lachem elokechem » Les enfants face au père, il n'y en a pas un qui ait de droit plus que l'autre. La notion d'existence, c'est une notion de ben. Nous avons été enfantés, nous avons été créés « Banim » Atem, vous êtes des enfants. Il n'y a pas d'entité personnelle si ce n'est celle d'être l'enfant du Père. Et tous les enfants sont égaux. Banim Atem veut dire, là est la situation de l'homme. C'est ça le système dans lequel il vit. Al Sheba Rabbi Akiva a été obligé de nous dire la limite. La limite c'est que Imar, c'est vrai, Banim Atem. Seulement chaque fils est d'abord obligé de regarder, de voir, de percevoir ses besoins. Et c'est seulement lorsque, dans une certaine mesure, ils seront satisfaits, qu'il pourra regarder ceux des autres. C'est un chiyuv, c'est une obligation. V'chayachicha imar, imar, c'est-à-dire d'abord toi. Donc on voit que la Torah est allée très loin, dans la limite de ce qu'on pourrait appeler le système individuel. Et d'un autre côté, lorsque nous voyons l'histoire, commençons par Avraham Avinu. Avraham Avinu nous dit, nos chachamim, Amoud Achesed, celui qui a proclamé dans le monde la Mida de Chesed, c'est-à-dire la bonté d'Akadosh Baruch Hu dans la création. Amouda Chesed, un jour, il est arrivé que les bergers de Lot avaient fauté. Il est allé chez Lot et lui a dit, c'est à toi de choisir. Tu vas à droite et moi j'irai à gauche. On ne peut pas vivre ensemble. On ne l'a pas renvoyé. On a été poli. On est même prêt à lui laisser choisir sa direction. Mais on ne peut pas exister. On ne peut pas coexister ensemble. C'est impossible. Abraham Avinu. D'un autre côté, nouveau paradoxe. Yaakov Avinu nous dit Rashi dans le passou dans Vaishlach. Lorsque sont cités Achad, Asar, Yeladav, il avait 11 garçons. Rachid demande où était Dina et Rachid cite le Midrash. Dina, elle était enfermée. Dina, on n'a pas voulu la montrer à Esav parce que on a pensé que Esav la voudrait pour femme et il ne fallait pas la lui donner. Dit le Midrash, c'est pour ça que Yaakov a été puni, qu'il y a eu ce qu'on appelle Maas et Dina, c'est-à-dire qu'elle a été prise par Shechem. Parce qu'il n'a pas voulu la donner à son frère. Peut-être en se mariant avec Esav, elle aurait fait de lui un autre homme. Comment peut-on exiger cela à un homme? Prends ta fille, tu vas la donner au rachat qui a la prime de Rechaïm existant sur la terre, et peut-être arrivera-t-elle à faire de lui un autre homme. Voilà ce qu'on a exigé de Yaakov Avinu. Et puisque Yaakov Avinu ne l'avait pas compris, alors à ce moment-là, il y a eu le Maas et l'histoire de Shrem. Kaena avec Kaena, on peut continuer. Et on verra que d'un côté les Chazal, d'un côté les Chachamim comprennent les choses avec une finesse extraordinaire. On comprend Avraham Avinu. Il est normal que l'on ne puisse pas vivre avec un rachat. Et d'un autre côté, l'histoire de Yaakov. Et ce qu'il faut essayer de déterminer, c'est d'abord quel est le guéder, jusqu'où vont les choses, et comment peuvent-elles coexister dans le système qui est celui de la Torah. On va essayer de prendre les choses par un autre bout. Tout le monde connaît, il y a eu un rave qui s'appelait le Shah Gatarié, qui était rave dans la communauté de Metz, et il était en discussion avec un évêque qui lui a demandé la question suivante. Vous savez que dans la Torah, il existe un principe, Acharei Rabim Le'atot, on va selon l'opinion de la majorité. Nous, les chrétiens, sommes tant et tant de dizaines ou de centaines de millions. Vous, les juifs, vous êtes un Me'at Mikol Amim, un petit peuple. Comment se fait-il que vous n'observiez pas le précepte de la Torah, Acharei Rabim Le'atot, rangez-vous donc à l'opinion de la majorité. Ce principe d'Acharei Rabim Le'atot, c'est un principe qui a fait faire aux Chachamim des choses extraordinaires. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Yoshua, qui a été obligé de venir devant le Sanhedrin avec Maklo Betarmido le jour de Yom Kippour, puisqu'il n'était pas d'accord avec la date fixée par les Chachamim, et on lui a demandé non seulement de ne pas célébrer son Yom Kippour, mais de montrer à tout le monde que le jour de Yom Kippour, il se conduisait comme un jour de Chol, et il est venu. Acharei Rabim Le'atot, c'est un principe qu'ont observé scrupuleusement les Chachamim et qui a été la garantie de la transmission de la Torah, malgré les divergences d'opinion. On a donc demandé au Shah Gatarié, Acharei Rabim Le'atot, voilà, il y a tant et tant d'opinions. Le Shah Gatarié a répondu, Acharei Rabim Le'atot, quand est-ce qu'on est obligé d'aller d'après la majorité, bimkom safek, lorsqu'il y a un doute? Mais moi, Engli Safek, nous le clan d'Israël, nous n'avons pas de doute sur notre Emouna. Lorsqu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas ni de majorité ni de minorité. Telle était la réponse du Shah Gatarié. Comprenez très bien que même si cette réponse est vraie, on est obligé de l'expliquer. À partir de quand commence le doute? Rabbi Yeshua non plus ne doutait pas. Rabbi Yeshua, s'il a été capable de fixer pour le clan d'Israël entier la date de Yom Kippour, c'est qu'il ne doutait pas. Et lorsqu'il est venu devant les Chachamim, Maklo Metarmido Beyado, lorsqu'il est venu en étant Mechalel Yom Kippour, il était quand même sûr d'avoir raison. Il n'avait aucun safek, il n'avait pas de doute. Et il s'est rangé à l'opinion de la majorité. Et il y a encore plus. nous allons trouver une tolérance extraordinaire de la part de Chachamim les uns envers l'autre. Par exemple, il y a dans Yevamot Daf Yudalet, il y a une Mishnah qui raconte ceci. Tzara Terva, il y a un cas dans Yevamot, un homme qui se serait marié par exemple avec la fille d'un autre, et l'autre c'est son frère. Il est une mitzvah dans la Torah Asher de Sarcha Al Titalem. Il s'est donc marié avec sa nièce et il meurt. Il y a la mitzvah de Yiboum s'il n'a pas d'enfant, il y a la mitzvah du Lévira. Et il y a en même temps, il est marié encore avec une autre femme que l'on appelle Tzara Terva. Est-ce que cette Tzara Terva mitia vemet ou l'omitia vemet? Est-ce qu'on doit faire le Lévira? Est-ce qu'on doit faire le Yiboum dans ce cas-là? Voilà la machloket, voilà la discussion. Bet Shammai ou Bet Hillel. Ça, c'est un point d'état civil qui touche au din de Mamzerut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on diverge sur ces opinions-là, on ne peut plus se marier avec le clan adverse. À partir du moment où on n'arrive pas à se mettre d'accord, où il n'y a pas une majorité qui se dégage, cette machloket va briser le clan d'Israël. Et pourtant, nous dit la Mishnah, Velonim neu bet Hillel milisa mi bet Shammai. Les enfants de Bet Hillel se sont mariés avec ceux de Bet Shammai. Et Rachel lui dit comment? Parce que Bet Shammai leur disait, attention, ici c'est une Tzara Terva que nous permettons, mais que vous vous interdisez. Attention, chacun avait sur sa carte d'identité d'où il venait, pour que l'autre ne fasse pas des sourds selon son opinion. Jusqu'où les Chachamim étaient d'accord? Jusqu'où le Kal Israël a été capable de vivre, même dans la marloquette, même dans la discussion, au point que lorsque quelqu'un rencontrait, un homme de Bet Hillel rencontrait une jeune fille de Bet Shammai, elle lui disait, attention, je suis moi d'une famille où il y a eu Tzara Terva, tu ne peux pas te marier avec moi. Ils ont fait confiance à Bet Shammai, il n'y a jamais eu de problème, il n'est jamais arrivé qu'il y ait un mariage qui n'avait pas été signalé par Bet Shammai à Bet Hillel. Ça c'est un côté et une face. Mais il y a encore l'autre côté. L'histoire de Pinchas, tout le monde connaît. Tout le monde sait que c'est une halakha dans la Torah, et bien que en morim ken, c'est-à-dire que si quelqu'un vient demander au Bédine, on ne lui dira pas d'aller frapper l'autre, mais la halakha est, elle restera, qu'il y a des cas où kanaim pogimbo, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin du Bédine, et les cas où on a besoin du Bédine, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a des chachamim, il y a un sanhedrin qui viendra et qui agitera le bras séculier, il tuera. Il y a la peine de mort. D'un côté, une tolérance extraordinaire. De l'autre côté, il y a l'application du Midat Hadin, de la mesure la plus stricte et la plus dure. Comment est-ce que l'on peut concilier ces deux choses? Si vous ouvrez les Hilchot Deot du Rambam au 6e Perek, le Rambam commence comme ceci. Dit, il faut savoir, Derech Beriato Shel Adam, il est de la nature humaine. Liot nimshach bedeotav ou bemaasav, d'être entraîné bedeotav dans son système, dans sa logique même, bemaasav et dans ses actes, achare reav vechaverav. Il est entraîné par les autres, ses amis, ceux qui sont autour de lui, venoeg ke anche medinato, c'est-à-dire il se comporte en animal social, il copie le comportement de l'autre. Derer briato chez la dame, c'est la nature humaine. Personne ne pourra jamais y changer. Le fichar, c'est la raison pour laquelle tsarich adam litraber la tzadikim. Un homme est obligé litraber, c'est-à-dire d'essayer de se coller au tzadikim. Veleishev lifnei chachamim tamid. Il est obligé de s'asseoir devant les chachamim tamid, toujours. Velo yidabek bereshaim, il n'a pas le droit, il ne doit pas s'associer aux reshaim. Sheba choshech olchim, qui vont dans l'obscurité. Et le Rambam dit, si jamais quelqu'un ne trouve pas de siva, il ne trouve pas de système dans lequel s'intégrer. Il n'a pas de société qui lui convient, il doit sortir. Vi'iman she medina toraim, et si dans sa medina, dans l'endroit où il vit, ce sont des gens dont il va fatalement être entraîné et dont il n'approuve pas le système, il doit partir à Filou le Midbarot, il doit s'exiler dans le désert, Avalo Yeshev Imaem, mais il ne peut pas rester avec eux. Pourquoi? Parce que derer Briato chez la dame, Voilà la nature humaine. Liot nimshach, même bedeotav, même dans sa façon de penser, non seulement dans la façon de se comporter. Ça n'est pas seulement que l'homme est noekan shemidato, c'est-à-dire qu'il copie la conduite de l'autre. Mais bedeotav, il commence à trouver juste la conduite de l'autre. La Torah exprime donc comme système que la conduite influe sur la pensée, de même que la pensée influe sur la conduite. Ça, c'est un yesod, c'est quelque chose qu'il faut savoir, que l'on retrouve souvent. Un homme est maître de sa pensée. Il doit savoir que lorsqu'il se conduira de telle et telle façon, lorsqu'il verra telle et telle chose, il se mettra à penser à telle et telle autre chose. À partir de ce moment-là, il devient lui-même maître de ses croyances et de sa pensée, et il peut les diriger selon qui il fréquente et selon ce qu'il voit. Voilà ce qui est marqué dans le Rambam. Ça, c'est quelque chose qui va très loin. Qu'on est obligé de savoir, c'est que la liberté, elle n'est plus, une fois que l'on s'est permis un système social, une fois que l'on s'est permis de voir certaines choses, on n'est plus libre de penser autrement. Et la Torah le justifie au point que lorsque on est obligé d'appliquer la peine de mort, lorsqu'on est obligé de tuer, c'est la paracha de Hira Nidachat dans Devarim, après la Torah dit, après avoir appliqué la peine de mort, à ce moment-là sûrement tu deviendras dur, Venatan lecha rachamim verichamcha, à ce moment-là Akadosh Baruch Hu te donnera la pitié. À ce moment-là, il y a une notion que tu vas perdre, et Akadosh Baruch Hu te la rendra et te la donnera. Parce qu'à partir du moment où un homme se met à appliquer la Midat Hadin, il se met à réfléchir selon la Midat Hadin, et il n'est plus capable de chesed, il n'est plus capable de racham. C'est la Torah elle-même qui le dit. Cela se vérifie au point. Nous savons que si on peut éduquer un enfant, si on peut éduquer un jeune, comme ça s'est passé il y a quelques dizaines d'années, et qu'on lui dit, et qu'on l'éduque, qu'il sache et qu'il croit qu'un juif c'est un rat, à partir de ce moment-là, on aura pitié d'un chien, mais on n'aura pas pitié d'un juif. Venatan harachamim, ça veut dire que la pensée influe sur le comportement, mais le comportement aussi influe sur la pensée. Je suis donc obligé de savoir jusqu'à quel seuil je peux me permettre de cohabiter, de converser et de commercer avec celui dont j'aurais pour l'idée. Ça, c'est l'histoire d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, bien que ce Lot faisait partie de sa famille, il a vu que sa conduite n'était pas celle qu'il désirait pour lui et la sienne. À partir de ce moment-là, commence le problème « V'chai achicha imach ». Je peux vivre avec l'aube, je dois vivre avec l'aube. « Bani matem l'Hashem elokechem ». Je n'ai rien de plus que lui. Seulement, « imach », je suis obligé de me construire moi et ensuite de construire l'autre. Si je vis avec lui, il n'y aura plus personne à construire parce que moi aussi, je n'aurai plus de déhote, je ne pourrai plus, moi, essayer de le reconstruire, lui. Il y a donc un seuil auquel Abraham Avinu a pensé être arrivé. Et c'est pour ça qu'il a dit, tu pars à gauche, je pars à droite, tu pars à droite, je pars à gauche. Mais on ne peut pas vivre ensemble. Si c'est comme ça, nous avons posé une question. C'était celle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on lui demande, on a pu exiger de lui, va présenter à ton frère, va présenter à un homme, où la Torah nous dit que le même jour, il est arrivé à transgresser Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Voilà le personnage. Tu cherches un shidur pour ta fille, tu vas lui présenter ta fille Dina. Peut-être un jour, elle va faire de lui un Baal Tshuva. Voilà ce qu'on a exigé de Yaakov Avinu. Demande Rabbi Israël Salanter. En quoi était-il pire que Yaakov Avinu? N'avait-il pas le droit, lui, de se séparer de Esav, de séparer sa famille de Esav, comme Abraham l'avait fait avec Lot? Il répond, attention. Qu'a fait Yaakov? Il a enfermé Dina dans un coffre, il a enfermé dans une boîte, dans tout ce que vous voudrez. Dit Rabbi Israël Salanter, pour l'enfermer, il fallait une porte. Et lorsqu'on enferme sa fille devant son frère, on pleure. On ferme la porte doucement, on ne la claque pas. Ce qu'on a reproché à Yaakov Avino, c'est par ce geste de s'être débarrassé du problème de Esav. Ce qu'on lui a reproché, c'est d'avoir claqué la porte trop fort. On ne lui a pas proposé le geste lui-même. On lui a reproché la façon de faire. Et de là, nous commençons à voir le Yesod. Le Yesod devrait être, d'après ce que l'on peut comprendre, qu'à partir du moment où nous nous conduisons en tant que Banim Lachem, nous sommes tous des enfants qui étudions le même texte. Lorsque deux personnes se mettent à étudier, vous avez peut-être vu, vous avez peut-être senti ça, deux personnes se mettent à étudier une Gemara en Chumash. On se dispute, Nasu Oivim, ensuite Nasu Oavim, on se réconcilie. Mais la dispute, elle n'est jamais personnelle. Parce qu'en fin de compte, que tu penses comme ça ou que tu penses comme ça, c'est quelque chose qui ne m'atteint pas personnellement. Bet Shammai et Bet Hillel, un n'a pas le droit de se marier avec la famille de l'autre. Et quand même Odim, c'est-à-dire que l'on peut vivre ensemble. L'un ne mangera pas ce que l'autre mange. L'un ne sera pas d'accord sur l'opinion de l'autre parce qu'il est arrivé à une conclusion différente et on n'est pas arrivé à dégager une majorité. On ne peut pas demander à quelqu'un, bien qu'à Kadosh Baruch Hu l'ait fait, de se conduire toute sa vie, c'est-à-dire de jeter la vérité par terre pour le shalom. Parce qu'à partir du moment où le fait de vivre en paix fait que l'on ne vit plus en vérité, ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, Ishlich Emet Arza, pour créer le monde, il a jeté la vérité par terre pour pouvoir avoir des hommes qui, bien qu'ils puissent vivre, pas selon la vérité, puissent vivre au moins ensemble. Ishlich Emet Arza. Jusqu'où? Et nous avons dit, jusqu'à son propre renoncement. À partir du moment où c'est plus Imar, mais c'est toi-même qui es en cause, là tu n'as plus le droit. À partir de ce moment-là, on est obligé de considérer que mon opinion est valable, que toi tu as une opinion différente. Bani matem l'Hashem Elokechem, ce que je fais c'est pour Hashem Elokeinu, ça n'est pas pour moi. Ce que tu fais c'est pour Hashem, c'est pas pour toi. À partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison de litige. À partir de ce moment-là, quelqu'un comme Rabbi Yoshua est prêt à venir le jour de Yom Kippour et d'être mechalel Yom Kippour, maklo v'tarmilo v'yado. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça n'était pas son affaire. Bani matem l'Hashem Elokechem. Nous sommes tous des enfants, nous sommes tous des fils, c'est-à-dire que nous œuvrons pour la même chose. Mais il y a un moment où ça commence à toucher la personne elle-même. Il y a un moment où je ne peux plus, moi, vivre avec l'autre, parce que le fait de vivre avec l'autre fait que je suis obligé de renoncer à ce qu'on appelle son moi. À partir de ce moment-là, il n'est plus de problème de halakha, il n'est plus de problème de modim, zélezé, comme faisait Bet Shammai et Bet Hillel, et on est obligé de se séparer. L'histoire des Hashmonaïm, c'est l'histoire de gens qui étaient victimes d'agressions. On vient chez quelqu'un, et au nom de l'assimilation, de l'hellénisme, on vient et on lui dit Shabbat est assur, Chodesh est assur, Talmud Torah est assur, Mila est assur. Il y a un moment où v'chai achicha imach, on n'en peut plus. À partir de ce moment-là, on est tous les deux dans le désert. Ve'yesh be'yad echad kiton shel mayim. Il y en a un qui a la cruche, il est obligé de la garder pour lui. Il ne peut plus partager avec l'autre. Bien que Ben Petora le croyait, Ad Sheba Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est venu, et voilà comment était la lacha. Ça n'est plus possible. Il y a un moment où le fait de vivre avec l'autre, c'est le fait d'être agressé et de ne plus pouvoir être soi-même. Ça, c'est l'histoire de Pinchas. Vivre dans le Chilul Hashem, dans le Chol, c'est quelque chose qui doit être impossible. Parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus Bani Matem Lachem Elokechem. À ce moment-là, nous ne vivons plus rien. À partir de ce moment-là, la guerre est déclarée. Le problème est de savoir, est-ce que dans cette guerre, est-ce que dans cette lutte, je me conduis comme on a reproché à Yaakov Avinu, c'est-à-dire, tu n'as même pas le droit de fermer la porte trop fort. Quelqu'un qui fait ça, il doit le faire en pleurs. Il ne doit pas le faire en ayant gagné quelque chose ou en pensant avoir une victoire. À partir du moment où c'est possible. Et nous disent les Chachamim que Pinchas, comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin, Ilouné par Zimri va ragno le Pinchas, et il en est ragalav. Zimri, celui qui a été tué par Pinchas, il avait le droit de tuer Pinchas. Il était en état de légitime défense. Pinchas a pris ce risque. Il a pris le risque d'être tué lui-même. Il n'a pas fait pour se protéger. Il ou n'est pas, et la Gemara nous dit, c'était un est, un miracle. Que Pinchas ait atteint Zimri avant que Zimri puisse réagir. Mais il n'avait pas pensé que ça arriverait, Pinchas. Et quand même, il l'a fait. Ça, c'est ce qu'on appelle Kanaïm Pogimbo. Kanaï, ça veut dire, c'est quelqu'un qui lutte pour sa survie et la survie spirituelle du judaïsme. Donc on est en train de dégager le Yesod qui est celui-ci. On est obligé, et il est possible, de vivre ensemble dans la machloquette la plus dure. Si ça, cette machloquette est ce qui est marqué dans la Pirkei Avot, le Shem Shamayim, c'est-à-dire une discussion sur un texte, quelle est la volonté de Dieu. Et ici où machloquette le Shem Shamayim, c'est Hillel le Shamayim. Si on commence avec des questions personnelles, machloket shelo le shem shamayim, ça n'est plus le genre de machloket de Hillel le Shamayim, c'est le machloket de Korach ve Adato. Et les Chachamim font remarquer, pourquoi y a-t-il marqué Korach ve Adato, c'est-à-dire Korach et sa communauté. Il a bien fait le machloket avec quelqu'un, on aurait dû dire Korach et Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu n'était pas en machloket avec Korach. C'était Korach qui était en machloket avec Moshe Rabbeinu. Korach était machloket, Korach ve Adato, mais Moshe Rabbeinu n'avait pas de machloket. Machloket veut dire, on s'oppose sur un texte, on s'oppose sur la volonté d'Akadosh Baruch Hu sur la terre. Lorsqu'on s'oppose là-dessus, c'est une machloket sofalit kayem, c'est-à-dire qu'elle se résorbera un jour. C'est la raison pour laquelle, bien que Bet Shammai et Bet Hillel, l'onimnu, jamais ils n'ont été empêchés de se marier les uns avec les autres. Et en fin de compte, dans tout le cas d'Israël, jamais personne n'a été empêché de se marier avec personne d'autre. Machloket, le Shem Shamayim, sauf à l'Itkayim. Un jour, elle s'arrêtera. Un jour, les effets seront les mêmes que ceux qu'avant. C'est-à-dire que bien qu'on était opposés dans la machloket, on continue à vivre ensemble. Un jour, il n'y aura plus de machloket. Un jour, on trouvera la lacha. Un jour, il y aura une majorité qui se dégagera. Et c'est ainsi que la lacha est devenue comme Bet Hillel. Et c'est resté comme avant que l'onimnu, ils ont pu vivre ensemble. Machloket, qui n'est pas le Shem Shamayim. Lorsque c'est une querelle de personnes, alors à partir de ce moment-là, c'est une machloket unilatérale, celle-ci, Eina Sofalit Kayem. Celle-ci, elle ne se résorbera jamais, si ce n'est par la défection de l'un des partenaires. Et on sait ce qui est arrivé à Korach ve Adato. Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons donc dégagé qu'à partir du moment où ça se situe sur le plan des idées, à partir du moment où chacun est intéressé à découvrir le texte, chacun est intéressé à donner son avis sur la Torah, elle a été donnée aux hommes, et c'est à l'homme de concevoir, c'est à l'homme de réaliser ce qui est marqué dans la Torah selon sa propre logique, sa propre pensée. Là, toutes les machlokot du monde sont possibles, et on a vu que le cas d'Israël a vécu avec les machlokot, et au contraire. Ça, c'est le germe de la pérennité, la possibilité pour chacun de s'exprimer. Seulement, à partir du moment où il y a un problème personnel, à partir de ce moment-là, ça ne fait plus partie de cette machloquette, c'est-à-dire de cette possibilité de division qui est permise. Il y a un moment où c'est interdit, c'est terminé. Ce moment-là, c'est lorsque tu n'es pas victime dans ton entité spirituelle. Tu n'es pas un homme qui a peur pour ses déhottes. C'est que la nature humaine est de ne pas laisser l'autre s'exprimer. Lorsque les Chachamim discutent, ce n'est pas la même chose. Au Sanhedrin, lorsque Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer discutent, Rabbi Yoshua, l'opinion de Rabbi Yoshua, elle ébranle l'opinion de Rabbi Eliezer. Il existe un Safek, bien que chacun pense avoir raison, mais quand même l'autre opinion, elle est valable, elle existe, parce que c'est quelqu'un qui a le même intérêt que moi et qui parle sur la même base, Bani Matem Hashem Lokerem. Mais il y a des gens avec lesquels nous n'avons pas de safek, parce que nous savons que leur pensée, c'est le produit de leurs besoins, c'est le produit de leurs actes. À partir de ce moment-là, puisque vous êtes Nimshachim Achre de Otav Ravotav, et que vous êtes obligé de raisonner comme vous raisonnez, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de safek. Ça n'est plus un doute. Ça n'est pas une opinion qui est en face de moi. Il faut qu'il y ait des gens, comme nous dit la Torah, Achare Rabim Latot dans le Sanhedrin, des gens avec lesquels on peut se mesurer. Ces gens-là font un safek, ces gens-là font qu'il y a équilibre dans la balance, il y a doute. Pour le tiers, il existe un doute. Et là, il faut s'incliner puisqu'il y a une majorité qui se dégage. Mais à partir du moment où il n'y a pas de safek, c'est-à-dire que tout ce que tu me dis, non seulement je l'ai entendu, mais je sais dans quelle situation faut-il se mettre pour penser comme toi, à partir de ce moment-là, je n'ai pas de safek. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce qu'a répondu le Chagatai. On est d'accord de discuter de tout. Mais à condition que les bases soient les mêmes. Si les bases ne sont plus les mêmes, alors, ça, c'était la réponse du Chagatai. Il est évident que si nous cherchons l'application pratique, et c'est comme ça que je vais terminer, de ce raisonnement-là, nous sommes obligés de considérer que dans notre vie sociale, la façon dont nous avons d'aborder les autres, il est à voir si les problèmes que nous pouvons avoir dans la pratique des mitzvot, ce sont vraiment les problèmes qui nous font nous insurger, ou alors ce sont des problèmes qui, pas d'une façon aussi dark, pas d'une façon aussi fine que celle de Yaakov Avinu. Parce que là-bas, à Kadosh Baruch Hu Medagdekim Tzadikav, que Ruta Sahara fermait la porte un petit peu trop fort. Mais chez nous, c'est beaucoup plus grossier. C'est-à-dire qu'il est à savoir, lorsque je m'oppose à un système, est-ce que c'est parce que ce système m'agresse dans ma pensée, dans Sofalit Kayem Bet Shamayu Betilev, ou alors c'est une machloket Korach Ve'adato. C'est-à-dire que l'homme, la nature de l'homme, c'est de ne pas pouvoir vivre avec quelqu'un qui s'oppose à lui. Ce justement à quoi sont arrivés les Chachamim, qui vivaient toute leur vie avec des gens qui appliquaient la lacha le contraire. Qui est capable aujourd'hui de venir dans une synagogue et de voir quelqu'un qui ferait une mitzvah exactement le contraire de l'autre? Et non seulement être mechavel auto, lui donner la possibilité de le faire. Qui est capable aujourd'hui d'inviter quelqu'un à sa table et d'être heureux du fait que l'autre lui dit je ne mange pas chez toi? Qui est capable de faire ça? Celui qui est capable de faire ça, à partir de ce moment-là, c'est une machloket Bet Shammai Bet Hillel. C'est une machloket Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer. Celui qui n'est pas capable de ça, qu'il sache que ce qu'il engage, c'est machloket Korach Ve'Adato. Ça veut dire que la façon que nous avons de nous déplacer, elle doit être étudiée. Peut-être pas au point d'en arriver à Yaakov Avinu, puisque nous n'avons pas la madriga de Yaakov Avinu, mais quand même, de pouvoir savoir que celui qui avait le droit de discuter, celui qui avait le droit d'être relax sur l'autre, il avait aussi le devoir de pouvoir vivre avec l'autre. Celui qui n'a pas la possibilité de vivre avec l'autre, il ne peut pas dire V'chayachi chayimach, je ne peux pas vivre avec toi puisque la Torah m'oblige à me séparer, puisque de toute façon tu ne peux pas vivre. Ça veut dire que la façon dont nous avons de considérer l'orthodoxie, et puisque nous ne pouvons pas sonder les cœurs, nous sommes obligés de juger sur pièce, c'est-à-dire la façon qu'a l'autre de pratiquer les mitzvot. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes paralysés, mais presque, puisque nous ne pouvons pas affirmer que la raison pour laquelle nous nous opposons, c'est justement le Shem Shamayim. Nous ne pouvons pas juger de l'autre, mais nous pouvons juger de nous-mêmes. Et nous pouvons essayer de savoir, Est-ce qu'à chaque instant, le fait de ne pas pouvoir vivre avec l'autre, le fait de ne pas pouvoir être d'accord avec l'autre, de quel côté cela vient? Si quelqu'un est arrivé à la conclusion qu'en vérité c'est parce que il ne peut pas faire autrement, alors c'est une machloket le chercher. Mais d'abord, il va falloir passer par Ve'avta le Re'acha Kamora. Tu vas te mettre à la place de l'autre et tu vas voir. Tu vas voir si c'est agréable, tu vas voir si toi tu peux supporter lorsque quelqu'un vient chez toi à la maison et qu'avec un grand sourire, il te montre qu'il a une autre façon que toi de pratiquer les mitzvot. À partir du moment où tu sais vivre comme ça, tu peux commencer la machloket. On peut commencer à être intolérant. On peut commencer à dire, attention, il y a marqué dans le Rambam. Avant non. Ça veut dire qu'à partir du moment où je sais objectivement que je suis Nimshar, c'est-à-dire que la seule chose qui va se passer, comme Avraham Avinu, c'est que je vais être attiré dans le camp de l'autre, là, et il ne faut pas se cacher, aujourd'hui, c'est le grand problème de la société juive. C'est que peut-être, nous devons nous réaliser qu'il y a peut-être justement une différence entre l'orthopraxie et l'orthodoxie. Les mitzvot ben Adam la chavero, les mitzvot qui sont celles de l'homme envers son prochain. Il y a, tout le monde connaît, c'est la kushya du roche, une question du roche. Le kovetz se'arot le ramène et il y met en vérité les mitzvot ben Adam la chavero, elles devraient passer avant les mitzvot ben Adam la makom. Pourquoi? Parce que Ben Adam la Chavero, il y a deux choses. D'abord, il y a Chavero, et ensuite, il y a Kadosh Baruch Hu. Alors que Ben Adam la Makom, il y a seulement Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui pratique ça dans sa vie? Qui c'est qui comprend que c'est comme ça que ça marche? C'est vrai qu'après, la Gemara dit le contraire. Elle dit, attention, il faut savoir à quel prix. Si, par exemple, l'autre a perdu un objet, et que moi, pour aller le lui rendre, je dois être Mechalel Shabbat, pour aller le lui rendre, je dois, si je suis un Kohen, rentrer dans un endroit où il existe la Touma. Alors nous avons le principe qui est Vechida Chinan Isura Kamemuna. Est-ce que pour toi tu l'aurais fait? Pour toi, si ça t'avait coûté de l'argent, est-ce que tu aurais renoncé? Mitzvah alors pour l'autre non plus. Mais il en reste que la mitzvah Ben Adam la Chavero, il y a et Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Makom. Alors que la mitzvah Ben Adam la Makom, il y a Ben Adam la Makom. Alors le problème est de savoir, puisque justement nous ne sommes pas des tzadikim, et puisque c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup parce que on trouve qu'il est un petit peu indécent d'en parler parce que justement on ne peut pas savoir où est-ce qu'on tient. Quelqu'un qui ne met pas les tefillin, vous venez avec lui avec une paire de tefillin. Mais quelqu'un qui a des mauvaises midotes, vous ne pouvez pas venir avec lui avec un monsieur à Tchéchari. Ça ne se fait pas. Alors quel est le derrière? Comment est-ce qu'on va faire? J'ai une fois entendu du Mashgiach de Ponovitch Repratzke Zecher Tzadik Livracha. Il a dit une seule chose. Si tu es un tzadik ou non, c'est le problème de ta vie, ça n'importe à personne. Qu'un homme soit un tzadik, il mettra toute sa vie pour être un tzadik. Qu'il fasse les choses parce qu'il pense qu'il est obligé ou il les fasse parce qu'il les sente, c'est le travail et son travail. Mais que Ben Adam la Chavero devant moi, tu te conduises comme un tzadik, ça c'est mon droit et je l'exige. Que tu le sois véritablement, ou alors que tu te conduis comme, ça ne m'intéresse pas. Ça c'est ton problème. Ça veut dire que bien que quelquefois nous pensons qu'il y a des conduits que nous ne pouvons pas avoir parce que nous ne sommes pas la madriga de l'être. Parce qu'évidemment, il est plus facile de mettre les tefillin le matin que de faire ce genre de choses-là. Évidemment, il est plus facile de le mettre que de pouvoir supporter l'autre. La conduite, on doit l'adopter. La conduite du tzadik, n'importe qui peut l'adopter. Est-ce qu'il va le faire parce qu'il le sent ou il va le faire parce qu'il est contraint, obligé, parce qu'il sue, parce qu'il transpire la mitzvah? Ça n'intéresse personne. Ça, c'est dans le mitzvah ben Adam la Makom. Dans le mitzvah ben Adam la Chavero, ça, c'est une chose qui n'intéresse pas l'autre. Et c'est ça le derrière. Conduis-toi comme le tzadik se conduit. Et c'est ça ce qu'il dit le Rambam. Un homme est obligé, li traber la tzadikim ve leishev et tzelech achomim. Mais à quoi sert cette conduite-là? Parce qu'un jour, tu deviendras comme ça. Au commencement, tu ne l'es pas. Tu n'es que quelqu'un qui est yoshev. Tu es assis devant lui, tu es mis traber. Tu viens et tu t'agrèges. Mais il y a un moment où tu le deviendras. À partir de ce moment-là, on peut considérer que si quelqu'un se conduit de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune guia dans sa vie, il existe même lorsque dans sa vie, il aimerait que ce soit
de cette façon-là, il arrive à faire le contraire. Et il n'est pas la madriga de faire le contraire. Il n'a pas la madriga des Gdolim. Seulement, il se conduit quand même. Il est mis traber la tzadikim. À partir de ce moment-là, lui, il a le droit de faire machloket le shemcha.
D'abord, essayer de parler de la première question qui n'en était pas une, mais qui était une remarque. C'est que moi, dans mon système, je peux justifier que l'autre n'a même pas le droit de vivre. J'ai le droit de justifier, de m'expliquer, et moi, ça ne me pose pas de problème. Le problème est de savoir, pour l'autre, quelqu'un dans son système pense que l'autre n'a pas le droit à la vie. Il n'a pas le droit à la vie. Il est rachat, il vaut mieux qu'il meure. Le problème est de savoir, parce que toi tu as ton système, tu as le droit de l'imposer à l'autre, lui il n'y croit pas à ce que tu racontes. Est-ce que sa vie est subordonnée à ce fait-là? Donc à partir du moment où justement, comme l'a fait remarquer le Moshe, que moi je ne le fais pas parce que c'est mon système, je le fais parce que c'est la mitzvah, à ce moment on ne peut pas venir chez moi me le reprocher. Mais de dire simplement que j'estime moi que l'autre n'a pas le droit de vivre, ça n'est pas une justification pour porter la main sur lui. C'est peut-être une justification pour penser qu'il n'est pas bien. Et à la rigueur, j'aurais peut-être le droit de prier et de demander à Kadosh Baruch Hu, que fait-il ici? Mais qui dit que je dois le faire? Ça, en vérité, cette question, je n'ai pas voulu tellement l'aborder parce que, disons que ça n'est plus tellement notre propos puisque la peine de mort n'existe pas aujourd'hui dans le cas d'Israël. Mais il faut savoir que le problème de la peine de mort, c'est justement le problème de la mitzvah. C'est-à-dire que tout le monde comprend, et c'est comme ça que l'on peut comprendre la théocratie et ses limites dans la société de la Torah. Lorsque tout le monde est d'accord que c'est Akadosh Baruch Hu qui vit, qui fait vivre et qui tue, qui fait mourir, alors on est d'accord de lui laisser le mauvais rôle. C'est-à-dire que lui-même estimera et fera ce qu'il pense juste. Mais moi, je ne veux pas me salir les mains. Là-dessus, la Torah dit « Alti tzadik arbe ». Lorsqu'on a dit à Shaoul, au roi Saül, on lui a dit « Il faut aller exterminer Amalek ». Il devait comprendre que si Akadosh Baruch Hu lui dit « Exterminer Amalek », ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu aussi peut le faire, il n'a pas besoin de lui. Lorsque lui dit « C'est trop cruel », on lui répond « Alti tzadik arbe ». Ça veut dire ne fais pas jouer ce rôle à Dieu sans vouloir le jouer toi-même. Si tu penses que c'est Akadosh Baruch Hu Meimit ou Mechaye, alors il est obligatoire qu'il y ait une mitzvah d'être Meimit. Ça, on peut le comprendre. Ça n'est pas que je force et que j'imprime mon système à l'autre. C'est que le système de la Torah, il est obligé d'être basé avec cette anachala. Parce que tout ce que je vois chez Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah pour moi. Ve'alachta bidracham, ça veut dire que ce que tu as vu que fait Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah pour toi. La première mitzvah de la Torah, c'est quoi? C'est Peru Revu, parce que tu as vu qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Tu as vu qu'il y a création, Peru Revu tout de suite. Première mitzvah de la Torah. Donc ici, c'est la même chose. Donc comme ça, on pourrait le comprendre. La deuxième remarque, on ne peut pas venir avec un sefer de Messiah Tesharim, il faut savoir que il y a la morale que l'on peut faire individuellement et collectivement. On peut donner un shiur de monsieur Atishari. Mais de dire à quelqu'un, je vois que tu as tel môme, je vois que tu n'es pas bien dans cette chose-là, je vois que cette midala, tu es égoïste, tu es méchant, tu es orgueilleux, tu es... C'est une chose qui ne peut pas se faire aujourd'hui. Non seulement parce que la Rambam dit que nous ne savons pas et nous ne pouvons pas faire la mitzvah mecha, c'est-à-dire protester envers l'autre, mais parce que à partir d'un certain moment, c'est instauré dans le clan d'Israël, malheureusement, un système qui est que lorsque quelqu'un vient et dit à l'autre « Tol kisem mi ben shinecha », c'est-à-dire « Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi », l'autre lui dit « Tol kora mi ben enecha », c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de recevoir. Abraham Avinu, je ne sais pas s'il a fait Torah, s'il a réussi dans la Torah, en tout cas, il a réussi à être megayer. Ça, c'est la différence entre, on peut appeler ça la Yiddishkeit de confection et celle sur mesure. Il y a une Yiddishkeit de confection. Celle-là, elle est possible. La Yiddishkeit de sur mesure, c'est lorsqu'on apprend à quelqu'un à travailler sur lui-même.
On peut très bien dire, je suis un Baljoua, mais je suis libre. Voilà, mais ça y est, je veux. C'est pas si sûr que ça. Ça veut dire que la Yiddishkeit, c'est pas un vêtement qu'on a acheté en confection, mais qu'on est obligé d'acheter sur mesure, de faire faire sur mesure, de se faire faire sur mesure. Alors ça, c'est très difficile de montrer à quelqu'un que sa Yiddishkeit, elle n'est pas faite sur mesure. La difficulté, c'est à partir du moment où je sens que chez lui, c'est pas sur mesure, comme chez moi de toute façon, est-ce que je peux supporter de vivre avec lui? Et là, je veux juste ramener à ce propos-là, il y a un midrash dans le Bréchit Rabati qui raconte l'histoire suivante. Abraham Avinu, comment est-il arrivé à ouvrir sa tente aux quatre vents? C'est qu'un jour, un pauvre est venu chez lui et il lui a dit, donne-moi à manger. Abraham Avinu est venu, il a donné à manger, le pauvre lui a dit, non, ça c'est pas bon. Il lui a amené un petit peu mieux. Il est passé du poisson à la viande. Il a dit non, c'est pas bon non plus. Il a essayé de trouver encore mieux. Jusqu'à ce qu'Abraham a vu, nous s'est un peu fâché. Il lui a dit, où tu manges comme moi, où tu t'en vas? Et l'autre est parti. Il est allé dans le désert, il a pleuré. À Kadosh Baruch Hu a paru à Abraham a vu, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu l'as renvoyé? Abraham a vu, nous a dit, mais il est insupportable. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui a répondu, si moi je le supporte, est-ce que toi tu peux pas le supporter aussi? Ça veut dire que, de nouveau, Adbek Bemilota, essaye de te comporter, Valar Tavidracha. C'est vrai que toi tu ne le supportes pas, mais essaye de te comporter puisque tu as vu chez moi, chez Akadosh Baruch Hu, une anaga, une façon de se comporter, essaye toi aussi d'y adhérer. Maintenant de dire à l'autre, puisque chez moi-même je sens que ça n'est qu'une conduite, et que tout doucement, et ça peut prendre une vie entière jusqu'à ce que ça devienne justement le sur-mesure, il est très difficile de dire à l'autre et de commencer à rentrer dans les problèmes de l'autre, si ce n'est d'une façon collective. Et la façon collective, effectivement, c'est la confection, ce n'est pas le sur-mesure. En ce qui concerne le problème du racisme, je crois qu'il est très difficile de le traiter. Parce que Ve'ahavta lo'recha kamocha, le rapport avec le goy, c'est quelque chose qui est, dans la Torah, traité d'une façon différente. À partir du moment où on vit dans une société où il existe des différences, il est évident que le principe de Ve'ahavta lo'recha kamocha doit s'appliquer autant aux juifs qu'aux goyim. Le problème est de savoir quelle est son ambition et quelle est mon ambition. Ça veut dire que sans verser dans le racisme, et ça on n'a pas besoin de faire une analyse de savoir si le clan d'Israël a versé dans le racisme ou non, nous ce qui nous intéresse c'est le point de vue dans la Torah. Il a toujours été nécessaire pour pouvoir organiser sa vie que le clan d'Israël se sépare. De là à parler de racisme et de haine, il y a un monde. Donc ici, je ne voudrais pas, disons, ce n'est pas tellement le problème d'essayer de traiter le rapport entre le juif et le non-juif, de savoir quand est-ce qu'il a l'homme à bas, quand moi j'ai l'homme à bas, qui est-ce qui est bien dans sa peau, qui est-ce qui n'est pas bien dans sa peau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'interdiction d'être sonné l'autre, d'haïr l'autre, c'est à partir du moment où je n'ai pas à lui reprocher une conduite, mais c'est quelque chose de personnel, ce doit être légal pour le non-juif et pour le juif. Chez nous, à la synagogue, les offices sont très longs. Alors il arrive quelquefois que on lit la Haftara vers midi moins le quart, midi. Et il y a beaucoup de personnes, une partie, je ne dirais pas importante, mais spectaculaire de la synagogue, qui s'en va au moment de la Haftara. Et on sait qu'il y en a parmi eux pour lesquels c'est difficile depuis 8h du matin de s'abstenir de la cigarette. Et tout le monde sait qu'à l'extérieur des synagogues, il arrive que... Mais un jour, chez nous, il est arrivé que la fin de la Haftara, elle était plus courte que d'habitude. Alors on a fait signe à tout le monde de rentrer, et puis il avait oublié la cigarette. Et il est rentré dans la synagogue avec la cigarette. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'il a reçu un coup de pied de l'un, il a reçu une gifle de l'autre. Il y en a un qui l'a tapé dans le dos. Tout d'un coup, il était par terre. Ça a commencé à crier. Les autres, c'est pas qu'ils fumaient pas eux-mêmes le Shabbat. Mais ils n'auraient pas eu le culot de venir avec la cigarette dans la synagogue. Alors à ce moment-là, je me suis demandé, mais On envoie tous les jours des juifs le sabbat après-midi, en tout cas tous les samedis. On envoie qui travaillent, qui fument, qui roulent. Ni on les tape, ni on les pousse, ni on crie. Au contraire, on est tout à fait capable de commencer à discuter et de se placer d'un point de vue un peu plus civilisé, dirons-nous. Et de plus, comment se fait-il que justement celui qui avait éteint la cigarette 5 minutes avant, c'était le premier à accuser l'autre? Comment te permets-tu de rentrer dans la synagogue? Donc on est obligé de dire que le problème est celui-ci. C'est que la vie personnelle de chacun intéresse très peu l'autre. On conçoit que l'autre est libre dans sa vie. Et on n'interviendra qu'avec la politesse nécessaire après être venu chez lui et s'être essuyé les pieds. À partir du moment où il vient chez moi, et la synagogue, je considère donc que c'est chez moi, c'est un endroit que j'ai choisi pour prier. Il vient chez moi et il profane ce que je pense être collège, à partir de ce moment-là, tout est permis. Pourquoi? Parce que je sens l'agression. Malheureusement, il en est de même en Eretz Israël. Vous savez qu'un juif, lorsqu'il va en Eretz Israël, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y en a pas beaucoup qui y vont. Que celui qui va en Eretz Israël, c'est pour essayer, s'il est religieux, s'il est orthodoxe, c'est d'essayer de vivre une vie juive. Et lorsqu'il voit que le pays réservé par Akadosh Baruch Hu à cette vie juive, dont ce que nous nous appellerions chez nous, par rapport à notre ville, l'État d'Israël ou le peuple d'Israël ou la terre d'Israël par rapport au monde, la synagogue. Et il voit que l'on vient ici et que devant son nez, on se permet de faire rôle ce que lui pensait qui est Kodesh et qu'il a choisi pour être Kodesh. À partir de ce moment, la réaction elle est vive. Il ne s'agit plus de réaction de deux personnes qui discutent dans un salon, mais de celui qui est agressé chez lui dans ce qui est le plus cher. Et à partir de ce moment-là, les réactions, elles sont différentes. Maintenant, si on appelle le phénomène de racisme, le fait que l'un vienne du nord de l'Europe, l'autre de l'est de Jérusalem, et le troisième de l'Europe de l'Est, en ce qui concerne la Torah, on connaît les principes. En ce qui concerne l'application, ce n'est pas à nous d'essayer de savoir ou d'essayer de montrer qu'on s'est bien conduit, qu'on s'est mal conduit, qu'on aurait mieux fait de se conduire autrement. Le problème est de savoir au niveau des principes comment nous, nous devons nous comporter. Mais essayer de savoir si les autres ont fait ceci officiellement, d'après la Torah, d'après la mitzvah, la conduite que l'on doit adopter vis-à-vis l'autre, qu'il soit différent ou pas différent, à part justement si c'est un problème dont on a cité plus haut, et c'est ça les problèmes pratiques aujourd'hui qui existent en Eretz Israël, il ne peut exister et on ne peut même pas penser à une formule de racisme. Je crois que c'est la première fois qu'une question adressée au Bédine de Paris m'est adressée à moi. Il est vrai, je ne sais pas si c'est tellement le propos de ce soir de s'étendre sur les bienfaits ou les méfaits de la cache-croûte parisienne. Il est difficile d'être obligé de traiter un sujet en étant contre. On ne peut pas obliger quelqu'un pendant toute sa vie à être contre, à parler contre. Et il est peut-être une attitude plus positive qui consisterait non pas à parler contre et à dire contre et à s'opposer, mais à construire. Celui qui construit n'a pas peur des affiches, qu'elles soient oranges, rouges ou vertes. On pourrait même dire qu'il n'a pas peur des grands rabbins. Celui qui construit, il rentre en opposition avec personne. Et si l'autre ne peut pas le supporter, lui n'est pas obligé de s'attaquer. C'est la raison pour laquelle je préférerais moi-même de ne pas parler de ce problème. Parce que justement, on ne peut pas obliger quelqu'un à parler contre un autre. Ah, vous me demanderez alors pourquoi est-ce qu'on ne construit pas? Il faut croire qu'il y en a qui construisent. Deuxième question. De concilier Ve'avta le'reacha kamocha avec le souvenir d'Amalek, avec l'obligation, justement, de se rappeler de ce qu'il a fait et d'en effacer jusqu'à son souvenir tangible dans la réalité. Vous savez qu'en hébreu, le mot réa, c'est le mot ra. Réa, ça veut dire l'ami, celui qui est proche, le compagnon. Celui qui fait la route avec vous, il s'appelle réa. Et le mal, en hébreu aussi, il s'appelle réa, il s'appelle ra. Amalek, la Torah nous dit que c'est celui qui a essayé justement d'être ce mauvais compagnon de route du clan d'Israël. Celui qui essaiera toujours. Et c'est celui dont on est obligé de se débarrasser parce qu'on est agressé. C'est l'agresseur Amalek. Amalek, c'est celui qui est venu à Asher Kor Rabaderech. Ça veut dire qu'il est venu, il a attaqué sur les points faibles. La Torah nous dit, ça il faut le savoir, c'est une gemara dans Sanhedrin, que Abba l'orgecha Hashkem l'orgo. Celui qui veut te tuer, Hashkem précède-le et tue-le avant. Il y a des cas où je suis en état de légitime défense. Lorsque le réa deviendra, c'est-à-dire lorsque justement, celui qui est, qui marche avec moi, dont la route est tracée en même temps que la mienne, devient celui qui m'empêche d'aller à mon but, il deviendra. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de ve'avta le re'acha, mais il y a au contraire une mitzvah qui s'appelle, c'est un verset dans Tehilim, Mesanecha Hashem Esne. C'est-à-dire, Mesanecha celui qui. Ceux qui te haïssent, et ce n'est je les haïrai. L'état de légitime défense, il peut être aussi spirituel. Donc non seulement il n'y a pas d'opposition avec la mitzvah de Ve'avta le re'acha kamocha, mais il y a une obligation dans la Torah où Biyarta ara'a mikirbecha, tu dois effacer, extirper, enlever le mal de parmi toi. Le mal, c'est ce qui va contraire à votre lutte. C'est l'inverse de l'avenir. Donc il n'y a pas d'opposition. Réa, normalement, c'est celui qui vous accompagne. Et là, je veux juste profiter, bien que on a dit qu'on ne parlerait pas tellement de la première question. Vous savez qu'il y a un verset dans Michelet où il est dit ceci. Baalos tzadikim rabati feret ubekum rashaim yukhpas adam. Baalos tzadikim, lorsque viennent les tzadikim, rabati feret, un homme monte, un homme se sent tiferet, il se sent quelque chose de grand. Ubekum rashaim, mais lorsqu'il a en face de lui un rachat yukhpas adam, alors on voit tous ces mots. Quelqu'un peut avoir un révélateur qui s'appelle Réa devant lui. Ce révélateur peut lui révéler ce qu'il a de bien et peut lui révéler ce qu'il a de mal. Baalos tzadikim rabatiferet. Lorsqu'il a en face de lui un tzadik, rabatiferet, ça veut dire que lui aussi, il voit les possibilités qu'il a de grandir, d'être tiferet, d'être quelque chose de grand, de beau. Ou bekum rechaim, mais lorsqu'il a devant lui un rachat, alors à ce moment-là, yuchupa sadam, il va voir tout ce qu'il y a de mauvais en lui et au contraire, il va être bloqué. C'est ce qu'on doit savoir. Vivre avec l'autre et être un tzadik vis-à-vis de lui pour lui montrer ce qu'il a de bien, pour lui montrer ce qu'il peut développer. Et pas racha, ou par rapport à l'autre, quelle est la définition, yuchupa sadam. Mot à mot, ça veut dire on le déshabille. On lui montre tout ce qu'il a de mal. Ce qu'il a de mal, ça veut dire ce qui en lui est mauvais et qu'il est obligé de dépasser. Alors que le tzadik monte, tiferet, il essaie de voir ce qu'il y a de bien, il essaie de voir comment est-ce qu'il construit l'autre. N'essaie pas de voir cette façon de lutter. Mais en vérité, c'est deux luttes. Le tzadik aussi lutte. Mais il lutte d'une autre façon. Il lutte d'une façon qui est rabatiferet. Alors que le racha lutte, yuchupa sadam. On peut avoir en face de toi quelqu'un de lutter avec lui, mais on va lutter d'une façon qu'on va dévoiler, ça c'est réa, on va dévoiler ce qu'il y a de bien. On va essayer de changer, on va essayer d'augmenter, on va essayer de monter. Ou alors, alors à ce moment-là, c'est le contraire. C'est l'autre qui va dans la dépression, c'est l'autre qui verra tout ce qu'il y a de difficile, tout ce qu'il y a à surmonter, tout ce qu'il y a d'impossible et tout ce qu'il n'arrive pas lui à réaliser. D'essayer de traiter ce problème-là. Je dirais juste en introduction qu'un problème pratique, on ne peut jamais le régler lorsqu'on a devant soi une espèce de caricature. On peut essayer simplement d'en dégager un problème théorique que l'on pourra traiter toujours théoriquement. Quel est le cas d'après l'Halakha ? Un homme marié depuis 10 ans, avec des enfants, qui a fait teshuva, il s'est habillé de la teshuva. Sa femme, elle, ne veut pas aller au mikvé. Quel est le din ? Combien de temps doit-il attendre ? Que doit-il faire ? Est-ce qu'il est en situation illégale, illicite ? Comment est-ce que ça marche ? La façon dont nous avons essayé de traiter le sujet ce soir est celle-ci. D'abord, essaye de dénaturer un problème. C'est l'affront fait par celui qui ne veut pas être comme toi. Et dis-toi que la Torah t'oblige, je veux aftaloré achakamocha, de ton point de vue, à supporter, le mot est peut-être un petit peu gros, mais en tout cas, à vivre une situation qui est celle que le bon Dieu a faite pour toi. Maintenant, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Jusqu'où je dois aller? Comment je dois aller? Il est évident qu'il existe une limite. Je vais vous raconter l'histoire suivante et je terminerai et je donnerai la parole à Franck Forter. L'histoire est celle-ci. Il y avait, en 1958, en Suisse, un Rav d'Eretz Israël, que l'on appelait le Rav Mibrisk, Zecher Tzadik Livracha. Et il y a un monsieur du Maroc qui m'a raconté qu'il est venu lui poser une question. Il a chez lui un homme religieux, très sincèrement religieux, qui s'est marié et dont la femme ne veut pas suivre la même voie. Est-ce qu'il doit divorcer ou non? Le Rabbi Brisk a demandé deux questions. Il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse faire la cache-route à la maison? On lui a répondu oui, puisque cet homme vit avec sa belle-mère. Il a demandé, est-ce qu'il peut avoir des garanties que seront respectées les Ilkhot Nida, les lois de la pureté familiale? On lui a répondu oui. Il a dit, il est donc marqué dans le Shulchan Aruch qu'il est interdit de divorcer. Celui qui me racontait l'histoire m'a dit qu'après avoir reçu cette réponse, il a demandé au Briskerov, et quelle est la vie de cet homme-là? Qu'est-ce que c'est comme vie de celui qui s'assoit à la table du Shabbat avec sa femme, avec la cigarette en face de lui? Quelle est la vie de celui, même s'il rotnida sont respectés, même s'il mange kasher, quelle est la vie de celui qui vit comme ça? Rami Brisk lui a répondu, ce que HaKadosh Baruch Hu renvoie, on ne s'en débarrasse pas avec un papier. Et l'homme qui m'a raconté m'a dit que 10 ans après, il a rencontré un jour une dame en Eretz Israël qui habitait dans le quartier de Goula, si les gens connaissent, à Yerushalayim, qui avait la tête couverte et qui lui a dit, monsieur, est-ce que vous vous rappelez de moi? Il lui a dit non. Il a dit, je suis madame telle et telle dont vous étiez allé poser la question grave et brisque. Et si aujourd'hui je suis ici, c'est grâce à vous. Ça, c'est l'histoire que m'a raconté ce monsieur-là. Et c'est par ces termes-là, en précisant qu'on ne peut pas juger d'un cas à l'autre, en précisant que la conduite à adopter, d'après ce que nous avons défini ce soir, elle est claire, de savoir quelles sont les limites de la halakha et comment pourrait-on imaginer dans quel cas on pourrait imaginer que la situation ne puisse pas être la même, quels sont les cas à traiter. Je laisse la parole à Franck Forter.
vous avez remarqué avec quelle perspicacité Rav Heyman a traité de toutes les questions et en particulier a ouvert un horizon sur ce qui est l'intolérance ou la tolérance à l'intérieur d'une même catégorie de personnes. C'est-à-dire ceux qui pensent comme il faut et croient penser comme il faut, peuvent-ils ou ne peuvent-ils pas supporter quelqu'un qui pense quelque peu différemment de lui. Ayant souligné cela, et pour revenir à la dernière question posée, c'est un problème qu'il convient d'envisager avec gravité. Ce soir, nous n'allons pas parler la halakha, c'est-à-dire le code juridique, que dit-il, qu'imprime-t-il. L'anecdote racontée par Rav Heyman est une indication fondamentale, mais l'aspect de la question, je la pose de la manière suivante. Si ça avait été une femme qui trouve que son mari est insupportable, ça aurait été le même problème. Il ne faut pas oublier, nous sommes trop habitués à poser les problèmes dans le sens de l'homme qui ne supporte pas sa femme. Et l'inverse, le problème serait tout aussi grave. À l'homme qui a posé le problème comme vous venez de le poser, je lui raconterai une anecdote que je vous raconterai dans 5 minutes. Même pas, puisque j'aurais fini de parler avant, donc dans quelques instants. Mais le vrai problème pour moi est comment se fait-il que la piété l'ait amené à de tels sentiments. Puisque le fondement de la piété ou de la piété qui se veut orthodoxe est de mettre l'accent sur l'amour du prochain. Et que où il n'est plus capable d'amour, où il ne juge plus que sa femme entre dans la catégorie de celle qui peut être son prochain. C'est là le drame. Je reviens d'abord à l'anecdote. L'anecdote est la suivante. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Je l'ai entendu de mon rebbe, et bien que la Shemiyachiyama Vushnotav. Un rabbi était de passage à New York et un jeune homme passe dans la rue où ce rabbi avait trouvé à être logé. Et une longue queue de personnes veulent le consulter. Et il voit une dame toute vieille qui est là, inquiète, et lui dit « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « Moi aussi, je veux rentrer chez le rabbi, il y a une telle queue. » Et elle dit « Bon, je vais être votre avocat, je vais vous procurer une place. » Et effectivement, les gens acceptent de lui céder une place. Alors elle dit « Mais je suis embêtée, je veux donner de l'argent au rabbi. » Et je n'ai rien sur moi, il faut que j'aille jusqu'à la maison et que je revienne et j'aurai perdu ma place. » L'homme lui dit « Combien voulez-vous donner ?» Elle dit « Je ne suis pas très riche, je veux donner 5 dollars. » Alors l'homme lui dit « Ça ne fait rien. Voilà, j'ai un billet de 100 dollars, je vous le prête. Et moi je vous accompagnerai à la maison, vous me rendrez les 5 dollars. » Son tour vient, elle pénètre et elle ressort. Elle est toute rayonnante et elle rend les 95 dollars à ce jeune homme. Et le jeune homme dit « Voilà, vous voyez, une bonne action, tout le monde est content. Vous avez donné les 5 dollars, vous avez vu le rabbi, il a été gentil, vous a rendu la monnaie, il a reçu les 5 dollars et il vous a donné une bracha, c'est très bien. » Et la dame dit « Mais vous, quel service avez-vous eu ?» Dis-moi, j'avais un faux billet de 100 dollars et maintenant je l'ai changé. » C'est une histoire horrible. Elle est horrible, cette histoire. Mais si mon rabbi me l'a racontée, c'est qu'elle est percutante. Il y a des gens qui ne savent pas où placer leurs faux billets. Ils trouvent un rabbi sous forme de bonnes actions. Ils placent souvent leurs fausses questions. Je m'explique. Quelqu'un va demander « J'ai oublié de faire motzi. Est-ce que je dois faire birkat Amazon? Si je ne me suis pas lavé les mains avant le repas, est-ce que je dois... prie après. » Mais il n'a pas précisé que ce jour où il a mangé, c'était Yom Kippour. Le problème est pris en bout, mais il y a un antécédent beaucoup plus grave. C'est que souvent, cet homme qui a fait teshuvah et qui ne supporte pas sa femme, ou cette femme qui a fait teshuvah et qui en veut à son mari, trop souvent, c'est qu'ils se sont habillés de la teshuva. Or, la teshuva n'est pas un habit, il faut se transformer en teshuva. L'homme qui est recouvert du manteau de la teshuva, ce manteau de vertu, souvent recouvre beaucoup trop de choses qui n'ont pas encore été soignées. Et c'est en cela que nous disons que Tocho que Baro, que l'intérieur soit au niveau de cette représentativité extérieure qui se veut pleine de vertu. Il y a du chemin à faire et c'est pourquoi cette personne dont a parlé Rav Heyman tout à l'heure, elle et son mari ont mis 10 ans à cheminer ensemble pour se transformer et ils ont fini par être heureux. S'ils se sont mariés et se sont appréciés avant d'être religieux, c'est qu'ils avaient quelque chose en commun, ce quelque chose en commun, ils ne doivent pas le brader parce que maintenant, au nom de la religion, au nom de la Torah, au nom de je ne sais trop quoi, il y a des niveaux qui les séparent. On peut admettre qu'il y a des niveaux qui les séparent. Eh bien, que l'un qui pense être plus haut tende les deux bras dans un geste d'amour, qu'elle comble de plus d'amour et de générosité celui qui doit découvrir ce qu'elle apprécie à présent. Et peut-être qu'ils mettront moins que 10 ans. La halakha est la conclusion concise du mode d'emploi que le Créateur a donné à Israël. Il n'y a pas meilleur moyen d'être heureux dans la vie que de suivre ce mode d'emploi. Ce mode d'emploi pris dès le départ peut assurer le meilleur service après-vente dans la vie. Mais s'il y a eu une mauvaise utilisation de la vie et que l'on revient et qu'on devienne Baal Teshuva, c'est à ce moment-là qu'il y a des difficultés, mais qu'il faut assumer ces situations avec le bonheur et la chance que Dieu nous a permis de pouvoir réparer ce qui a été commis au préalable, et alors effectivement, ils découvriront. Ce n'est pas, en fait, que la Torah et la Teshuva créent cette intolérance à l'égard de l'autre. C'est une mauvaise connaissance, une mauvaise façon de vivre la Torah qui a fait qu'est née cette manière de ne pas supporter l'autre. Citant l'anecdote de la Gemara, Rabbi Meir avait un voisin qui lui rendait la vie dure et insupportable. Et un jour, excédé, il se laissa à laisser échapper de sa bouche le contraire d'une bénédiction à l'égard de ce voisin. Comme s'il demandait quand est-ce qu'il quittera la scène pour qu'enfin il puisse vivre tranquille. Ce voisin est comme beaucoup de gens non religieux, c'est-à-dire ils sont intolérables à l'égard des religieux. Ils sont pires que tout ce que l'on peut imaginer. Alors la femme Bruria, l'épouse de Rabbi Meir, lui dit « Mais tu nous as enseigné autre chose ?» Tu nous as enseigné que le verset dit Yitamu chataim min haaretz ou rechaim od enam barchi nafshi. C'est-à-dire, tu nous as enseigné que les péchés doivent disparaître et non les pécheurs. Une fois qu'il n'y aura plus de péché, Yitamu chataim ou rechaim od enam, alors il n'y aura plus de coupables et notre âme pourra pleinement louer Dieu et vivre heureux. Alors Rabbi Meir a dit à sa femme, tu as raison. Je me suis laissé quelque peu emporter dans un mouvement d'humeur et il a prié pour le voisin. Aussi bien la prière de Rabbi Meir que la manière dont il accueillait et la manière comment le voisin pouvait croiser Rabbi Meir a enlevé le poison de l'atmosphère dans laquelle ils se rencontraient et l'homme a été transformé. L'homme est devenu un fidèle élève de Rabbi Meir. Un des premiers à se lamenter lorsque Rabbi Meir est décédé en disant « Et qui maintenant va nous protéger ?» C'est là un fait qui se retrouve dans la Gemara de Brachot à propos d'un autre maître, Hané Barianim, ces hommes sauvages et durs qui gênaient les Hachamim, mais encore une fois, ils ont prié, mais ça ne veut pas dire que l'amour comporte cette indulgence au point de renoncer à sa manière de vivre. Il s'agit de savoir comment faire accepter à l'autre et comment permettre à l'autre de se découvrir lorsque nous devons vivre avec, quand c'est le couple qui doit vivre avec. Comment permettre à l'autre cette véritable maïeutique, c'est-à-dire l'accouchement de soi-même dans l'amour et la considération qui a été les points de départ d'une vie en commun. Nous avons à tenir compte de deux questions. Et c'est le Balatania qui le souligne. Lorsque l'homme a été créé, il a commis la première faute et Dieu lui a demandé « Ayeka, où es-tu? Où te situes-tu dans ton monde? Comment tu conçois la vie de l'homme à l'intérieur de ce monde ?» Et lorsque le fils Caïn a tué Hevel, lorsque le deuxième crime s'est produit dans l'histoire, Dieu lui demande « Où est Hevel, ton frère ?» Alors le maître dit, l'homme doit toujours pouvoir répondre à ces deux questions. Ayeka, ayehevelochicho. Où est-ce que tu te situes dans le monde? Comment tu conçois l'existence du monde et le rôle de ta vie? Ensuite, à l'intérieur de ce monde, où est-ce que tu places ton frère? Quelle place laisses-tu aux autres? Comment ton égocentrisme a-t-il pu être digéré, effacé et transformé en amour, c'est-à-dire un acte de générosité? Tout le monde sait prendre, il faut apprendre à donner. Et plus on est pieux, plus on est orthodoxe, plus il faut savoir donner. Et en ayant dit ce mot, je cède la parole à ceux qui tireront les lots de la tombola.